Je vais revenir sur quelques éléments que j'ai évoqués hier soir pour essayer de leur donner un sens assez pratique. En général, nous favorisons dans notre approche méditative les expériences sensorielles. On peut beaucoup parler de l'audition, des sensations corporelles, du goût pendant les repas. Parce que les expériences sensorielles ont une qualité particulière qui fait qu'il est plus simple d'être présent lors des expériences sensorielles. L'audition d'un son est bien ce qu'elle est, l'audition d'un son. La sensation corporelle aussi, de lourdeur, de légèreté, de chaleur, est manifestement ce qu'elle est, de même que le goût. Donc il y a une certaine manière de franchise dans l'expérience sensorielle. Mais ici, on peut broder autour de l'expérience. Mais elle-même, par nature, elle a cette franchise. Alors que les expériences mentales de la pensée et de l'imagination n'ont pas cette franchise. L'image mentale d'une personne se fait passer pour la personne alors qu'elle n'est qu'une image mentale de la personne. La richesse de la pensée, la richesse de l'image, c'est justement qu'elle peut représenter quelque chose qui n'est pas là. C'est là toute sa force, son utilité. Nous savons très bien l'utiliser. Pourrait dire que lorsqu'on regarde l'horaire, bien on a bien quelque chose de cet ordre-là. Nous permet de prévoir l'horaire de cet après-midi, même lorsqu'on est en train de lire l'horaire ce matin. Mais le problème est que souvent, de manière confuse, nous prenons la représentation pour ce qu'elle représente. L'image d'une personne, tout d'un coup, nous affecte dans notre méditation. Nous nous énervons, nous nous excitons, nous nous attristons, comme nous le ferions par rapport à la personne, mais pas par rapport à l'image de la personne. Donc il y a une confusion. Nous prenons l'image pour ce qu'elle représente. Même si on devait voir toutes les personnes que nous invitons dans notre méditation, dans ce hall-là, il est clair qu'il serait beaucoup, beaucoup trop petit. On verrait bien que ce n'est pas possible. C'est simplement notre esprit qui se manifeste sous cet aspect-là. C'est vrai, inutile d'appeler une personne à laquelle vous pensez dans votre méditation et de lui dire, arrête de venir me déranger dans ma méditation. Ça n'aurait aucun sens. Et pourtant, il y a un petit peu de ceci dans la manière dont nous avons de confondre l'image ou la représentation de quelque chose avec ce quelque chose. Comme je l'ai mentionné hier soir, quelque chose d'important, c'est la représentation de la journée d'hier, qui n'est qu'une représentation. Je la confonds avec la journée d'hier, ce qui fait que tout d'un coup, ça donne une certaine épaisseur à la temporalité. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont un peu plus complexes ou plus subtiles que les pensées, les images, les états mentaux ne font pas partie de la méditation. Ils font partie de la méditation. Le grand maître Mahasi Sayadaw, dans sa manière assez globale d'aborder le problème, disait: pourquoi est-ce que nous méditons? Afin de ne pas saisir. Et sur quoi est-ce que nous méditons? Nous méditons sur ce qui surgit, sans aucune restriction. On voit très bien que lorsque nous sommes assis en méditation, surgissent l'audition des sons, des sensations corporelles, mais évidemment pas que ceci. Surgissent aussi des pensées, des images de personnes, de la rêverie. Donc nous méditons sur ce qui surgit au moment où ça surgit. Ce qui fait que si dans notre méditation surgissaient des pensées, des images, elle serait aussi le lieu de la méditation et non pas un défaut. Très souvent, les méditants considèrent les pensées, la rêverie comme des défauts et se précipitent sur la sensation corporelle pour éviter cette zone de perdition. Ça pose un grave problème parce que si la pensée et l'image est tellement fascinante, il est donc très important d'amener un peu de clarté dans ce qu'elles sont. Si elles peuvent nous perdre, il est important aussi d'amener de la confusion pour justement découvrir comment on peut être libre. Ce serait stupide d'aller chez un médecin et de lui parler que des parties qui sont en bonne santé et éviter de lui parler des parties qui vont pas très bien. Donc ici, pour nous, il s'agit lorsque les pensées surgissent, même si on veut revenir aux sensations corporelles pour avoir plus de stabilité, qui peut être judicieux, mais de ne pas considérer la pensée comme un obstacle, comme un défaut. La reconnaître pour ce qu'elle est avant de la quitter. Ce peut qu'on soit perdu, on est perdu quand on est perdu, on est perdu. Mais qu'à un moment donné, on s'en rend compte, ah tiens, là, il y a des pensées. Donc pas se dire, tiens, c'est un défaut, je vais dans la sensation corporelle. Se dire, tiens, où est-ce que je suis là lorsque je suis dans la pensée? Où est-ce qu'est ma présence lorsqu'il y a des images de la rêverie? Un des défis qui me semble tellement intéressant, ce n'est pas de croire qu'il y a un lieu privilégié de la présence, mais c'est dans chaque expérience trouver où est cette présence. Dans la pensée, où est-ce qu'est ma présence? Ou dans l'agitation, dans la somnolence, dans la rêverie, où est-ce que je suis présent? Je suis toujours présent, mais quelquefois j'en prends pas conscience. Donc reconnaître quand il y a cette fascination pour la pensée de certaines personnes ou le dialogue qu'on pourrait initier avec certaines personnes, reconnaître que l'image de la personne n'est pas la personne. Prendre une image célèbre, l'image du chien n'aboie pas. Se prendre la responsabilité de cette image-là. J'ai dit en plaisantant, on ne va pas téléphoner à la personne pour lui dire arrête de venir, mais ça découlerait presque de la manière dont on envisage l'image mentale. Se rendre compte que ce n'est que la présence qui se manifeste sous cet aspect-là. L'aspect d'une image de quelqu'un, d'un sens. C'est mieux, c'est pas bien. Ça n'a pas d'existence concrète, c'est juste une manière qu'a la présence de se manifester. Donc si des images mentales, si des pensées surgissent, celles de liées à la temporalité, dont j'ai parlé hier soir, de hier ou de demain, d'avant ou d'après, reconnaissez-les comme simplement des représentations, la manière dont la présence se manifeste en cet instant. Et si vous voulez, revenez à quelque chose de plus simple, comme la sensation corporelle. Mais ne considérez pas aucune expérience comme un défaut. Ni les pensées, ni les images, ni les états mentaux comme la fatigue, la somnolence. Où est la présence dans la somnolence? C'est très proche de la présence dans la pensée. La présence se manifeste sous un aspect un peu opaque, mais la présence reste ce qu'elle est, présence, la conscience ce qu'elle est. Donc s'il doit y avoir de la somnolence parfois, vous pouvez aussi, par curiosité, exploration, découvrir où est la présence à ce moment-là. Ça veut dire ne pas adhérer à la somnolence, ne pas s'y opposer, ni s'y complaire, pas dire ah mince, voilà la somnolence à nouveau. mais se rendre compte que cette somnolence révèle aussi une présence. Quand vous n'êtes pas là sur votre coussin, il n'y a pas de somnolence. C'est une richesse de la méditation que de pouvoir découvrir comment dans chaque expérience on peut être présent. Mais à nouveau, parfois, ça semble un peu difficile dans la pensée, dans l'imagination. On peut revenir au point d'ancrage, mais ayant garde de ne pas considérer que c'est un obstacle, un défaut. La pensée, l'imaginaire, la somnolence, la fatigue ne sont pas des défauts du comportement humain. Font part entière de notre existence. Et pour moi, il me semble assez évident qu'on ne peut pas aborder la méditation avec un esprit tellement sélectif que finalement très peu d'expériences restent du domaine de la méditation. La plupart des expériences doivent en être exclues. Et quelques-unes restent dans le domaine de la méditation. Le calme, la tranquillité, la joie, la clarté et tout le reste est à l'extérieur. Dans ce cas-là, on médite assez rarement. Et si vous voulez, lorsqu'il y a ces pensées et représentations liées à la temporalité, comme hier ou demain, avant ou après, d'essayer de voir comment c'est une pensée qui surgit dans l'instant, qui semble nous donner accès à un autre moment, mais en fait elle ne sort pas de l'instant. De le reconnaître, pas simplement de s'en convaincre. Pas inscrire aussi l'assise dans la temporalité. Ça fait 10 minutes, ça fait 15 minutes, il reste encore tant de minutes. Quand on a un cadran, on pourra le voir presque géométriquement. On a fait un quart, un tiers, etc. L'instant d'avant dans notre assise n'est plus là, l'instant d'après n'est pas encore là, il y a que cet instant. Certaines personnes disent que 45 minutes c'est trop long. On peut comprendre que quelquefois pour la position c'est un peu plus difficile, mais d'une certaine manière on médite jamais pendant 45 minutes, ni pendant 30. On médite que pendant un instant. Alors dites pas c'est trop long. Et ça a l'air amusant comme je le formule, mais d'une certaine manière, c'est ce qui donne la légèreté à notre méditation quand justement on n'a affaire qu'à un seul instant à la fois. On sent qu'il y a de la légèreté et de l'espace. Il se peut aussi que les pensées soient motivé par une émotion qui nous habite. À ce moment-là, il est judicieux de reconnaître l'émotion. Je pourrais venir ici, je m'assieds, je suis frustré parce que mon café était tiède, par exemple. Ce qui n'était pas le cas, je tiens à préciser. Et à ce moment-là, je pourrais m'asseoir puis dire quand même, c'est dégueulasse, etc. Quand même, ça fait 2 matins que c'est comme ça. Alors, non, si maintenant je dis non, c'est des pensées, d'accord, c'est des pensées, je reviens à l'abdomen. Oui, mais quand même, c'est dégueulasse. Mais le moment où je réalise, dans le fond, je suis irrité. À ce moment-là, ce dialogue disparaît, je suis irrité, je peux. Tiens, c'est quoi l'irritation? Comment est-ce que je l'éprouve? Alors, j'ai pris évidemment un exemple très simple. Quelquefois, ce sont des raisons un petit peu plus complexes et plus prenantes. Mais lorsqu'on peut découvrir l'émotion qui sous-tend les pensées. Il s'agit à ce moment-là d'être en contact avec cette émotion. Tiens, c'est quoi l'irritation? Que l'esprit puisse s'irriter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire comme manière d'être au monde dans l'irritation? Ou dans la tristesse? C'est quoi cette manière d'exister tristement? Ou de manière inquiète? Donc il se peut parfois qu'il y ait des émotions sous-jacentes aux pensées. Donc essayez de les découvrir. Quelquefois, ce n'est pas simple. Quelquefois, il semble qu'il n'y ait pas d'émotion. Donc explorez ceci par moment. Et si vous avez l'impression que ça commence à vous agiter, vous tournez en rond, oui, mais cette pensée, non, mais celle-ci, c'est une nouvelle, revenez à quelque chose de plus simple, tel que la sensation corporelle ou l'audition. Parce que c'est plus simple, non pas parce qu'il y aurait un défaut dans la pensée. Respectant ce que vous ressentez à chaque instant. Ne doit pas ressentir d'une certaine manière particulière qui serait celle de la méditation, mais être conscient, consciente de ce qui se passe en nous et de pouvoir l'éprouver pleinement. Donc pour résumer, toujours revenir à quelque chose de simple tel que l'audition, la sensation corporelle, en prenant soin de ne pas traiter les autres expériences qui pourraient surgir comme des obstacles, comme quelque chose qui serait un défaut du comportement humain. Le reconnaître, reconnaître la nature, et si nécessaire, revenir aux sensations corporelles ou à l'audition, de manière détendue. Il n'y a rien à accomplir parce que le présent est toujours déjà là. On ne peut pas le faire. On s'y ouvre, on en prend conscience, on s'y éveille. Mais il n'est pas à faire, donc on n'a pas à se battre, à s'efforcer. Donc pratiquer de manière détendue, avec sensibilité, avec légèreté.